7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM.
Il y a quelques jours, il était au pied de l'Annapurna. Aujourd'hui, il est dans nos locaux. Marc Battard, l'alpiniste installé à La Salle, est avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation de retour en France et dans votre Bourbonnais d'adoption finalement depuis quelques jours. Je le disais, il y a quelques jours, vous étiez encore au pied de l'Annapurna pour ce qui devait être une préparation finalement à ce grand projet, on rappelle, de retourner sur le toit du monde, sur l'Everest l'année prochaine pour vos 70 ans. Finalement, vous avez décidé de ne pas aller au sommet de l'Annapurna. Expliquez-nous pourquoi.
Exactement, oui, c'était le 15-16 avril avec Passang, que vous connaissez puisque je suis venu avec lui ici. Malheureusement pas avec Mohamed parce que Mohamed a disparu.
On va en parler.
Mais Passang, on était en pleine forme et je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais le matin je lui ai annoncé que c'était trop dangereux, on n'y allait pas et il a pleuré.
C'est ouais.
Alors qu'on pouvait aller au sommet.
Alors justement, oui, on voit sur la vidéo que les conditions ont l'air bonnes. On n'est pas des spécialistes de trail de montagne, bien sûr. Mais qu'est-ce qui finalement vous a fait renoncer?
Tout simplement, quand on est parti là-bas, je connais la Annapurna de réputation. C'est dangereux et il y a un itinéraire qui n'est pas dangereux. Donc la plus grosse organisation d'expédition commerciale m'avait garanti qu'ils allaient prendre la voie la moins dangereuse. Mmh. Et malheureusement, pour des raisons techniques, ils se sont repliés sur une voie dangereuse. Et voilà, même comment dire, Bertrand Delapierre, qui est un caméraman professionnel de très très haut niveau, qui a été financé par un de mes sponsors, est venu nous suivre. Et lui, il a pris le risque de passer. Et lui est un jeune guide de Pralognan Lavanoise, Yonick Vion. Ils ont vu passer des blocs de glace à quelques mètres d'eux.
Hein.
Donc, quand j'ai décidé d'abandonner. Alors qu'on pouvait aller au sommet, c'est une décision qui est très difficile en fait.
Ouais, bien sûr.
Et puis j'étais tellement heureux parce que j'ai filmé Passang pour lui annoncer la nouvelle et on voit très bien, il s'est mis à pleurer. C'est incroyable.
Bien sûr. Oui, parce qu'on voilà, ce sont des projets qui se préparent, bien évidemment. Donc quand on renonce comme ça, c'est vraiment qu'on le fait pas de gaieté de cœur. Mais oui, vous vous dites à ce moment-là, vous qui en plus êtes très mobilisé sur la question du danger en très haute montagne, là vous dites non, il faut pas y aller, c'est trop dangereux,
non,
on prend un risque.
Vous aurez l'occasion de regarder ces images parce que Bertrand Lapierre donc va faire un film qui va sortir. On va le présenter même pendant que j'y pense, je vous le dis tout de suite, à la mairie de Commentry m'a invité à l'Agora à faire une conférence au mois d'octobre. Et on présentera justement le film de Bertrand Delapierre.
Voilà, donc c'est quoi? C'est une embûche supplémentaire dans ce projet? C'était important d'aller au sommet de l'Annapurna ou finalement non, pas plus
non,
que ça?
Non, parce que physiquement on était très bien, on sait très bien qu'on peut le faire. On n'a rien à prouver. Moi-même j'ai déjà fait quand même deux fois l'Everest sans oxygène. Passang il a fait 13 fois, il a vraiment... donc voilà, mais au contraire c'est un exemple à mon avis qui est positif. Voilà, non mais c'est vraiment... Et justement, c'est à vous les médias d'en parler parce que c'est vraiment le reflet d'une certaine partie de la société actuelle. C'est cette consommation à outrance. C'est vraiment.
Alors justement, on a vu des images et on a vu des prises de position, notamment dans la presse spécialisée, sur ce qui se passe autour de ces sommets qui sont quand même pas atteignables normalement à tout le monde. On est quand même là autour de 8000 mètres d'altitude. Mais est-ce que c'est devenu un peu une usine presque à touristes? Un petit peu, c'est ce que vous dénoncez aujourd'hui?
Oui, tout à fait. Alors bon, par exemple, je parle souvent d'un film qui fait les choux gras aux agences qui font du business là-dessus. C'est le film qui est très bien, en l'occurrence, c'est Everest. Le film qui retrace une histoire vécue d'un maghrébin qui avait fait l'Everest sans aucune expérience. Bon, le film a été fait autour d'un black, certainement pour gagner plus d'auditeurs, j'en sais rien. Le film est très bien, mais seulement ça montre à des gens qui n'ont aucune expérience que s'ils veulent, ils peuvent, en trichant un peu, aller à l'Everest et tenter l'Everest. Donc ça fait un business qui... incroyable.
Et du coup, ça, on se rend pas compte, nous, mais par exemple, là, la Annapurna, vous êtes au pied, c'est quoi? On voit vraiment beaucoup de monde.
Ah ben là, il y avait des hélicoptères dans tous les sens. Le camp de base, c'est un camp de base accessible rapidement, qui est très beau. La marge d'approche pour aller au camp de base, c'est très beau, c'est très joli. Bon, on a été les seuls à monter à pied au camp de base. Tout le monde, ils sont tous montés en hélicoptère. Ils ont déposé des cordes fixes à 7400 mètres parce qu'il manquait des cordes fixes au dernier moment. Il y en a un qui s'est fait évacuer, soi-disant qu'il était malade. En fait, il n'était pas malade. Tout simplement, il voulait s'économiser pour aller faire un autre 8000 à côté.
D'accord.
C'est vraiment n'importe quoi.
Ouais, quand on est amoureux de la très haute montagne, évidemment, quand on voit ça, et puis on se dit peut-être qu'on est sportif comme vous, que ça se mérite finalement d'aller toucher ces sommets-là, et que effectivement, si on grimpe en hélicoptère jusque vraiment au pied, bon, c'est accessible à tous.
Alors pour être positif, une fois qu'on est rentré avec Passang à Katmandou, ben finalement, je réalise une des choses importantes dans mon projet, c'est de la sécurité, et donc j'ai fait une reconnaissance. Alors là, j'assume la contradiction, j'ai pris un hélicoptère et je suis allé faire une reconnaissance parce que je pouvais le faire que en hélicoptère. J'ai une idée pour éviter l'icefall. Hein. Alors pour ceux qui suivent un petit peu, il y a beaucoup d'accidents. Même là, la semaine dernière, il y a eu deux Sherpas qui ont été gravement blessés dans l'icefall. Il y a 4 ou 5 ans, il y a eu 16 Sherpas qui sont morts dans cet icefall. Et comme je suis quand même guide de haute montagne, j'ai une certaine expérience, je sais qu'il y a une possibilité de changer. Mais pour en avoir la conviction, finalement, j'ai fait une reconnaissance en hélico. Et avec Passang et mon compagnon, et on a fait un très beau film pour montrer. Et je vais aller équiper cet itinéraire cet automne.
Donc ouverture d'une nouvelle voie. Là, on parle de l'Everest. Hein. On parle du projet de l'année prochaine.
Pour éviter un endroit très dangereux qui est l'icefall, le passage.
Comment vous l'aviez repéré finalement cette voie-là? Comment ça se passe finalement?
Ben d'une part parce que je suis allé plusieurs fois. J'avais été inconscient parce que j'ai passé l'icefall plusieurs fois il y a quelques années en arrière. Après déjà en 1992, j'avais décidé de ne plus jamais mettre les pieds dans cet icefall. Et par contre l'année prochaine pour aller à l'Everest, je souhaite aller côté tibétain parce que c'est pas dangereux. C'est beaucoup moins dangereux. Dire que c'est pas dangereux, ce serait idiot, mais c'est vraiment beaucoup moins dangereux par le versant tibétain. Mais actuellement c'est fermé. Donc finalement, ça m'a accéléré l'idée de voir si c'est possible d'éviter l'icefall. Et donc j'y suis allé voir à faire un tour en hélicoptère.
Donc c'est à confirmer, mais c'est une voie que vous pourrez emprunter l'année prochaine.
Voilà. Alors je dois aller refaire un repérage pour évaluer tous les besoins qu'il y a en matériel pour équiper cet itinéraire. Et j'irai l'équiper justement. Alors je vais en profiter pour aller l'équiper avec deux jeunes aspirants guides français, hein, dont un qui a perdu son père dans un accident d'avalanche. Et je suis son tuteur à l'école des guides de Chamonix, et il viendra m'aider à former une équipe de Népalais pour leur montrer comment on trouve un itinéraire, comment on équipe un nouvel itinéraire et tout ça.
Alors justement, ce projet d'Everest pour vos 70 ans, vous avez déjà une date l'année prochaine? C'est à peu près fixé?
On sait. Ben là, on va en avoir encore la preuve les jours qui viennent. On sait que statistiquement, le meilleur créneau de l'année pour faire le sommet, c'est aux environs du 20 mai.
D'accord.
Donc là, ils sont à deux doigts d'y arriver. Donc il va y avoir une foule encore sur l'Everest à partir du 20, ça c'est clair.
Donc dans un an vous y serez prêt pour ce projet que vous préparez depuis quelques temps. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que les derniers mois n'ont pas été faciles. Hein. Il y a eu la disparition tragique notamment de Mohamed Ali Sadpara qui était passé dans ce studio, qui devait vous accompagner sur ce projet, emporté donc comme beaucoup trop d'autres finalement, c'est un petit peu ça. Ça a été vraiment pour vous compliqué ça?
Ça a été dur parce qu'effectivement je suis allé au K2 au mois de janvier avec Nathalie Lamoureux.
C'est un sommet aussi important.
Oui, c'est le deuxième sommet du monde et donc qui a été fait en hiver par les Népalais, ce qui a été une très belle victoire. J'ai eu la chance d'être présent au camp de base pour assister à ça, mais malheureusement quelques jours après, Mohamed avec son client islandais et puis un chilien ont été emportés. Par miracle, son fils Sadji, il a renoncé au bon moment et du coup il va remplacer son père. Donc alors normalement je suis invité par le Pakistan au mois de juin pour aller au K2 nettoyer les cordes fixes et éventuellement retrouver le corps de Mohamed.
Ouais, qui n'a jamais été retrouvé pour l'instant.
Alors ça reste à confirmer parce que j'y vais que si je suis vraiment invité par le Pakistan, parce que je n'ai pas les moyens de dépenser de l'argent pour aller au K2. On garde le budget qu'on a parce qu'on a la chance d'avoir des sponsors pour l'Everest, mais on garde pour l'Everest. Donc c'est possible que j'aille au K2, mais en tout cas Sadji, le fils de Mohamed, va remplacer son père.
Ça c'est une belle image finalement. Il a accepté, c'est vous qui lui avez proposé?
Non, c'est quand je l'ai rencontré au K2, il devait venir avec nous justement à l'Annapurna et avec l'Islandais, hein, parce que leur client c'était un jeune riche islandais qui était adorable et il devait venir avec nous à l'Annapurna. Et donc voilà. Alors le Sadji, il est pas venu à l'Annapurna parce que il prépare justement une expédition pour nettoyer le K2, les cordes fixes et essayer de retrouver son père.
Voilà, donc ça sera dans la continuité finalement, et puis c'est une belle image également qui est renvoyée à un beau message. Sinon sur le projet, aujourd'hui vous dites que vous êtes dans les temps par rapport à ce qui était prévu. Il y a eu la pandémie en plus qui a pas forcément facilité les déplacements pour vous.
Exactement, et en plus on a été touché par le Covid, puisque mon compagnon et le caméraman Bertrand Lapierre ont été testés positifs. Donc ça a créé un peu des problèmes. Vous avez peut-être vu chez vos confrères qu'au camp de base de l'Everest, il y a une trentaine. Ça a été un peu mis sous silence, mais il y a quand même une trentaine de personnes qui ont été évacuées un peu par le Covid. Enfin bon, ça pose beaucoup de problèmes, ouais.
Ouais. Bon, c'est pas un chemin tranquille hein, pour ce projet. Vous avez également eu des soucis de santé l'année dernière.
Oui, alors là, c'est un miracle, ouais.
Ouais. Rupture d'anévrisme, hein.
Oui, rupture d'anévrisme non plus. Bon, j'ai aucun séquel, hein. Ouais. J'ai aucun séquel. Ça m'a été confirmé pour mon neurologue de Clermont-Ferrand.
Et pas effectivement. De contre-indication à la pratique.
Non, du tout. Non, parce que pour ceux qui ne savent pas, la rupture d'anévrisme que j'ai eue, c'est une rupture donc d'un vaisseau au cerveau. Donc j'ai eu de la chance de pas mourir tout de suite.
Bien sûr.
Et je fais partie des rares à sortir à 100%. Donc c'est purement un problème mécanique qui est résolu.
Bon. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? Tous les feux sont au vert, entre guillemets, malgré toutes ces embûches-là dont on vient de parler pour l'année prochaine?
Oui, bah, tout est positif dans le sens où on a suffisamment de sponsors pour l'Everest. Par contre, on va chercher des partenaires financiers pour équiper ce passage de la cascade de glace. Donc là, on va aller à la recherche de partenaires.
Et en termes de préparation, notamment sur physique, sur la préparation, qu'est-ce qui va se passer là dans l'année qui vient? Aujourd'hui, vous êtes au point?
Peut-être aller au K2.
Ouais.
Et puis si je vais pas au K2, je vais tâcher d'aller un peu plus dans les Alpes, garder la forme physique parce que ça va.
Et vous allez toujours vous engager évidemment sur cette question du danger en haute montagne. Je crois qu'il y a notamment pour l'anniversaire des Jeux Olympiques d'Albertville l'année prochaine pour les 20 ans, vous allez être engagé également, c'est ça?
Merci d'en parler parce que j'allais oublier d'en parler. Alors c'est très important. Effectivement, on est parti sur un projet qui s'appelle le Chicha. C'est le premier sommet international de la sécurité de la très haute montagne. Donc ça, c'est la ville d'Albertville qui va organiser ça pour l'année prochaine. Ça sera un des gros événements de la ville d'Albertville pour le 30e anniversaire. Le projet est dirigé par quelqu'un alors que je vous amènerai parce que c'est quand même un personnage qui a son chalet. C'est un passionné de montagne qui a son chalet à côté de Chamonix. Mais en fait, c'est le créateur du Vendée Globe et l'ancien directeur du Vendée Globe.
D'accord.
Il s'appelle Denis Auro et donc c'est le parfait chef de projet pour un tel projet parce qu'il n'est pas parasité par tout ce domaine de la montagne. J'aurais pu choisir quelqu'un de très fort pour gérer ça, mais c'est mieux que ça soit quelqu'un de hors de la montagne, qui est passionné de montagne.
Bon, on a bien compris. Donc une grosse actu, vous allez être là-dessus rapidement, puisque le temps file en 30 secondes. La selle, c'est un peu le havre de paix au milieu de tout ça. C'est à côté de Montluçon.
Ouais, c'est très bien. Et puis on a retrouvé là, on est parti quand même presque 6 semaines.
Ouais.
On a avec mon ami, on a un chien magnifique qui est un chien des Pyrénées, et on a un ami qui est venu s'installer chez nous pour garder notre chienne. Et voilà, on est rentré très heureux de retrouver la selle.
Bon, on suivra évidemment vos aventures dans les prochaines semaines. Merci Marc Battard d'être passé à notre micro
ce matin. Merci à vous.
À très bientôt pour parler de tout cela. Il est 7h57 sur RJFM. On revient dans un instant.
7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM.